Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. J'ai une heure tous les jours pour vous montrer que oui, la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Nike lance sa basket connectée. Ça y est, vous pouvez d'ores et déjà l'acheter puisqu'elle est commercialisée. Mais chez nous, vous allez voir qu'en France, les acteurs aussi innovent et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Elle porte en elle 3000 ans d'histoire de parfums. Son nom évoque Grasse et la Riviera. Fragonard est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous avez encore des vieux tickets resto, non, ne les jetez pas. Ils peuvent encore servir. L'opération « Je déj, je donne » et la solution, c'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, vous avez la parole, comme chaque jour sur Europe 1. Venez nous dire, tiens, comment vous achetez vos baskets? Je vous le disais, Nike lance sa basket connectée aujourd'hui. Et du coup, on a voulu savoir comment se portait le marché chez nous en France. Alors, pour accueillir nos invités à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach Riyad Boulanoir aujourd'hui, inventeur de la méthode Boulanoir, notamment. Hein, on ne va pas tout citer, il y en a tellement. Bonjour Riyad.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes.
Aujourd'hui, des baskets, c'est vrai que nous en avons tous et toutes hein, dans nos armoires et plus seulement pour aller faire du sport. Depuis 2013, le secteur a connu une véritable croissance de plus de 5% environ par an. Jugé plutôt en 2017 par exemple, Adidas a fabriqué quelque chose comme 403 millions de baskets avec plus de 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais en France, des marques se battent aussi pour trouver leur place sur ce marché. Et vous allez voir qu'elles y parviennent. Bonjour Franck Chérel.
Bonjour Raphaël, bonjour
merci,
à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Parade et de Yvonne, la basket connectée pour seniors au départ, parce qu'on va voir qu'elle est en train d'évoluer. Alors on va, si vous le voulez bien, prendre l'histoire à rebours et commencer par le CES de Las Vegas où vous étiez avec la basket qui est avec nous d'ailleurs hein, sur Europe1.fr, vous pouvez la voir. Des prototypes comme ceux qui sont avec nous, vous allez en développer à destination du grand public. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ?
Ce sont des chaussures qui ont pour vocation de détecter des chutes de personnes. Donc on a pensé aux personnes fragiles. Notre métier à l'origine, c'est de fabriquer des chaussures de sécurité. Notre mission, c'est vraiment de protéger les gens et ça, nous le faisons depuis 41 ans. Nous fabriquons 1 million de paires de chaussures en France pour protéger les gens. Et on a eu envie de transformer nos chaussures en quelque chose de plus actif, non plus faire de la sécurité passive, mais faire de la sécurité active. Et on s'est posé la question, si on met de l'électronique, qu'est-ce qui se passerait à l'intérieur?
Oui, alors ça, ça a été possible de mettre de l'électronique parce que vous êtes allé chercher finalement ce qu'il y avait de meilleur autour de vous, hein, notamment dans la région des Pays de Loire, c'était important justement de travailler en proximité.
Sans un écosystème riche, nous n'aurions jamais pu développer ce type de chaussures. C'est un petit peu comme une graine. Vous pouvez avoir une excellente idée, si vous n'avez pas le terreau fertile, il ne se passera rien. Effectivement, à Angers et dans les Pays de la Loire plus globalement, on a un tissu très fort d'électroniciens et d'informaticiens qui ont un véritable savoir-faire et on a pu développer ces chaussures complètement révolutionnaires qui n'existent pas sur le marché et qui nous ont permis de récupérer un award effectivement à Las Vegas.
Alors les gens sont en train de se dire, mais attendez Raphaël, Duchemin a dit Parade et Yvonne, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même chose? Parade, si on simplifie, c'est le numéro 1 de la chaussure de sécurité?
Parade, c'est le numéro 1 français de la chaussure de sécurité.
C'est
un million de paires de chaussures par an. Hein.
Une filiale d'Eram.
C'est une filiale à 100% du groupe Eram, groupe familial.
Et Yvonne qui arrive par-dessus,
alors,
à côté.
Exactement. Yvonne, c'est notre petite start-up en interne. En fait, on a fait un petit pas de côté. À partir du moment où on a développé notre électronique, on a pensé à toutes les populations fragiles, les personnes qui pourraient avoir besoin d'une assistance. En fait... l'homme, l'individu, c'est d'abord homo sociabilis, c'est d'abord ça. On est très fort en réseau une fois qu'on est ensemble, mais une fois seul, on est particulièrement fragile. Donc l'idée nous est venue de développer une chaussure avec de l'électronique qui pourrait prévenir justement ses amis, sa famille en cas de souci. Donc d'abord les travailleurs isolés, évidemment, l'agriculteur dans son champ, l'agent de maintenance, l'agent de sécurité. Et puis après, on a pensé à toutes les autres personnes fragiles. Évidemment, on a pensé aux seniors, aux personnes ayant un handicap, mais aussi les personnes vivant tout seules dans un endroit complètement isolé. Si je tombe, qu'est-ce qui m'arrive? Pour l'instant, rien.
Et la basket peut envoyer l'alerte.
Voilà. Alors, à l'intérieur de la chaussure, il y a une petite électronique très discrète, complètement invisible, qui va...
Qui se trouve où? Dans la semelle?
Elle se trouve dans la semelle, exactement. On pourra ouvrir pour les auditeurs qui regardent.
Oui.
il y aura à l'intérieur donc de ce dispositif, on moniteur en permanence notre l'activité de la personne. Et il y a une signature numérique bien particulière si les personnes tombent. Donc à l'intérieur, il y a de l'intelligence artificielle qui va vérifier cela. Et s'il y a une signature qui est complètement étrange, dans ce cas-là, on va activer la partie supérieure de la chaussure où là, on a un module de communication. C'est comme si vous aviez un téléphone dans votre chaussure, si vous voulez. Et la chaussure va se mettre en communication directement avec le réseau national qui existe.
Il y avait déjà un savoir-faire chez RAM hein, avec Choose, je crois, qui travaillait sur la basket connectée. Du coup, vous avez un peu tout mixé.
Exactement. C'était notre premier galop d'essai avec la Choose. C'était il y a 2 ans. C'était des chaussures qui pouvaient s'adapter aux coloris de vos vêtements. On a utilisé certaines briques technologiques pour faire nos premiers prototypes et aller plus loin. Donc en fait, maintenant, on va vers le bien-être des personnes.
On en parle aujourd'hui parce que, hein, je le disais, Elisabeth, il y a Nike qui arrive avec cette fameuse basket. Alors j'ai dit connectée, mais elle fait beaucoup plus que ça d'ailleurs, cette chaussure.
Elle est totalement révolutionnaire.
Ça nous fait penser à un film d'ailleurs.
Oui, vous connaissez Retour vers le futur ? Ça
bien
vous dit
tout
quelque chose ? Et bien voilà, et ben, c'est la basket de Retour vers le futur. C'est une paire de baskets équipée d'un petit moteur. Le boîtier est intégré à la semelle. Alors c'est très pratique, paraît-il, pour relâcher la pression quand, par exemple, on veut s'asseoir, détendre la voûte plantaire avant de repartir pied au sol. La basket est effectivement connectée, Raphaël, vous avez raison. Elle est connectée à une application mobile. Elle peut être également pilotée à distance, une autonomie de 10 à 14 jours. Tout ça a un prix, hein, 350 €. Nike n'est pas la seule marque. Hein. Il y a Puma aussi qui a annoncé le lancement de son modèle de basket à lassage automatique. Ce sera d'ici l'année prochaine.
Ouais, ça fait un moment qu'ils essayent. Hein. Je crois qu'ils ont commencé, ils ont fait un premier lancement en 2016, mais celle-ci est manifestement plus aboutie. Justement, on parlait prix et autonomie. Vous en êtes où en termes d'autonomie et en termes de prix pour les modèles qui sont avec nous sur Europe 1 ?
L'autonomie aujourd'hui est de 3 mois. 3 mois sans aucune recharge, aucune chose à faire. Il n'y a pas de bouton, rien du tout. Pour ce qui est du prix, on est sur un système locatif. En fait, le système, l'électronique coûte beaucoup plus cher que le domaine de la chaussure. Et notre idée, c'était tout simplement de recycler cette électronique et de fabriquer plusieurs paires de chaussures avec. Donc, on est à 35 € par mois. Et au bout d'un an, vous avez une paire de chaussures neuve. Et cela inclut tout, le service, la chaussure.
Que dit notre coach ? Je le vois écouter avec beaucoup d'attention.
Ben oui, quand on vient du marché de la chaussure et que subitement on fait un produit high-tech dans lequel on doit joindre de l'électronique qui n'est pas du tout votre cœur de métier, comment ça se passe ? Comment on y arrive, quoi ? Et à qui on s'adresse ?
Alors effectivement, c'est 2 ans et demi de travail. On n'y arrive pas seul. C'est très important d'avoir un écosystème vraiment riche et fort. Et on a justement la chance, ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir ce qu'il faut dans les Pays de la Loire. Maintenant, le fait d'être électronicien, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Être fabricant de chaussures, c'est beaucoup plus important parce qu'on a beaucoup de problèmes d'intégration de cette petite électronique dans les chaussures. Et ça nous a permis de déposer plus de 5 brevets justement sur le sujet. Et on s'est rendu compte qu'on était le seul au monde à avoir développer et intégrer ce genre de technologie dans nos chaussures.
Il faudra combien de locations de paires de chaussures là, pour arriver à l'équilibre ?
Au bout de 2 ans, 2 ans et demi, l'électronique va être complètement amortie.
Question, la commercialisation, c'est pour quand ? Parce qu'on parlait de la basket senior, mais il y a aussi un développement grand public, hein, si j'ai bien tout compris.
C'est cela. Alors, 3 phases. L'univers du professionnel, on va commencer à commercialiser à partir de fin mars. À partir de début avril, on va commencer à travailler les seniors. Et puis, on a d'autres projets qui vont arriver à la fin du semestre pour le grand public.
Elisabeth,
elle aura de quoi de particulier cette basket pour les seniors ?
En fait, c'est la chaussure que vous voyez là-bas. Donc, c'est vraiment la détection de chute.
On pourra tous porter, que ce soit pour les seniors ou pour nous, on peut tous la porter.
Bien sûr, bien sûr. Imaginez que vous alliez vous promener en pleine forêt, vous alliez faire votre jogging, vous tombez, personne ne le sait. Et bien là, la chaussure le sait et elle peut envoyer directement un message.
Donc, ce n'est pas forcément adressé aux seniors.
Absolument pas.
C'est plus sur le modèle que vous allez travailler des versions qui plairont davantage en extérieur, on va dire, aux seniors et d'autres qui plairont davantage aux jeunes.
Notre savoir-faire, c'est de fabriquer des chaussures, donc on est capable de faire des chaussures qui s'adressent à tous les âges.
On reste ensemble et on continue à parler basket en France aujourd'hui sur Europe 1.
Et il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Quand l'amour de la basket se conjugue avec l'éthique, ça peut donner un projet, une marque aussi. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Veja. À tout de suite. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, on s'intéresse aux baskets françaises. Elles sont connectées, équitables, made in France. Il y en a pour tous les goûts. Venez nous dire comment vous aimez vos baskets. 39,21, c'est le standard, 50 centimes la minute, Raphaël.
Oui, c'est vrai ça. Comment est-ce que vous choisissez vos baskets? Parce qu'il y a aujourd'hui, dans notre acte d'achat, une manière d'être beaucoup plus responsable. C'est le parti pris de Veja. Bonjour Sébastien Kopp.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'un des deux fondateurs de cette marque française qui a démarré en 2005. Mais si je remonte, ça date de bien avant, hein, dans vos têtes, à tous les deux, avec François Guilin qui est le cofondateur. Parce que vous êtes des fans de basket tous les deux depuis votre adolescence.
Ouais, on en portait beaucoup. On n'est pas fans type sneakerhead, c'est-à-dire des collectionneurs, etc. Mais c'était un vêtement utilitaire, enfin une chaussure utilitaire pour nous. C'est-à-dire que notre génération, on est la première qui les a sortis des terrains de sport et qui les a mis dans la rue.
Et alors, pourquoi est-ce que vous avez eu, à un moment donné, dans votre vie, envie de vous tourner justement vers un produit responsable? Est-ce que votre prise de conscience, elle a lieu quand vous quittez le monde de la finance, tous les deux?
Ouais, en fait, on était plutôt économistes, c'est-à-dire qu'on avait fait des études d'économie assez poussées et qu'on était très intéressés par les économistes tiers-mondistes et altermondialistes. Et c'est vrai que en étant dans une banque aux US en 2001, on se disait que le système courait sans doute à sa perte d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental et social. Et on s'est dit que nous, on avait eu la chance de pouvoir faire des études supérieures. On avait eu la chance d'avoir toujours nos parents derrière nous. Si on se cassait la gueule, on pouvait se relever grâce à eux. Donc on s'est dit, si nous, on n'essaie pas de se servir de cette chance et d'essayer de tracer une voie un peu différente, qui le fera? Et c'est ça qui nous a décidé à se lancer un peu à l'aveuglette.
Ouais, vous lancez d'abord une ONG d'ailleurs.
Ouais, on travaille, c'est une drôle d'ONG hein, parce qu'on travaillait pour des groupes du CAC 40. On leur avait dit, voilà, vous discutez beaucoup dans les salons, dans les conférences à New York, Washington ou à Paris. Mais nous, ce qu'on se propose de faire, c'est d'aller voir sur le terrain ce que vous faites.
Oui, tout ce qui est RSE, pour voir finalement si c'était des paroles ou des actes.
Oui, ou d'améliorer leur projet, tout simplement d'analyser les relations tripartites entre ONG, grandes entreprises et populations locales. Bon, pour faire vite, on a été très déçus de ce qu'on a vu sur le terrain. On a vu que les paroles dépassaient les actes de très loin. Et que et qu'en fait personne ne s'occupait du sujet, ni les écolos, je dirais, qui discouraient beaucoup à Paris, ni les entreprises. Et on s'est dit pourquoi pas. On avait 24-25 ans. On s'est dit pourquoi pas essayer de créer un autre type d'entreprise qui mettrait ça.
Toute la chaîne, hein, c'est ça. Vous cherchiez à avoir la totalité du produit, du début à la fin.
Bah, souvent,
maîtriser la.
Souvent, quand on parle de développement durable, c'est et d'entreprise, souvent c'est décorrélé, c'est-à-dire qu'il y a des actions, il y a le business as usual, et on fait de la charité à côté, et on donne à des écoles, etc. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est intégrer le fait qu'il y ait un énorme impact social et environnemental à l'intérieur du business, à l'intérieur d'une chaîne de production, à l'intérieur d'une chaîne économique. Et on n'y connaissait rien en basket, mais c'est un produit qui nous plaisait, qui était très symbolique aussi, et on s'est dit que ça serait chouette d'essayer, du haut de nos 25 ans et de notre incompétence, d'essayer de changer la chaîne de production d'une basket. C'est-à-dire pas de commencer à l'usine de production, mais de commencer dès les matières premières.
Ouais, avec le caoutchouc en Amazonie, avec le coton bio justement au Brésil, et donc l'usine aussi. Et du coup, vos baskets, elles coûtent 7 fois plus cher à produire, mais vous dites... Il n'y a pas de pub. Nous, il n'y a pas de pub. Puisque nous parlions tout à l'heure de Nike, d'Adidas ou d'autres marques comme ça qui, finalement, ont un coût important, mais surtout parce qu'il y a la publicité.
Bah, on voyait que la publicité, et on le voit d'ailleurs pas que dans les baskets, hein, on voyait que la communication et la publicité a pris une large part de nos vies, à la fois de consommateurs et de professionnels. Et que nous, ce qu'on pense de cette société, c'est qu'elle est allée un peu trop loin dans la communication. Et peut-être que ça serait chouette de revenir à un peu plus de réalité, à un peu plus de terrain. Et nous, c'est comme ça qu'on a envisagé notre entreprise dès le départ, c'est-à-dire aller sur le terrain, être présent, comprendre, voir, sentir et travailler, bien sûr. Et d'ailleurs, Guilin, je lui fais un petit clin d'œil puisqu'il est au Brésil aujourd'hui. Et du coup, on a décidé, oui, de déconstruire une paire de baskets pour la reconstruire de manière clean. Alors, il y a des limites. On n'est pas parfait, on le dit. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas ou qu'on ne faisait pas et qu'on change petit à petit. Mais je crois qu'on est allé, on a commencé assez fort, dès 2005.
Que dit notre coach, Riyad ?
Est-ce qu'on peut dire que Veja, c'est avant tout une basket militante ?
Non. Non, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a, je pense, 90% des gens qui l'achètent qui ne savent pas ce qu'il y a derrière.
Et alors, une fois qu'on enlève le marketing, la communication, une fois qu'on enlève ces budgets-là, ouais, une fois qu'on va choisir équitablement les fournisseurs, on arrive à un prix public de combien supérieur à ce qui se fait par vos concurrents ou assimilés, quoi.
Bah, en fait, on l'a mis sur notre site pour faire un clin d'œil. On a fait deviser, ou on a fait pricer, enfin, c'est pas beau d'utiliser d'anglicisme, mais on a fait
évaluer.
Notre paire de baskets, l'une de nos paires de baskets les plus vendues aujourd'hui, et on a appelé une usine chinoise, ou une usine chinoise nous avait contacté, et on leur a dit, bah ok, bah combien ? Et on a publié ce devis. D'accord. Sur notre site. Et c'est, je crois que sur le site, c'est 4 fois moins cher, mais ça sans négociation, avec de tout petits volumes, etc. Et nous, on l'évalue justement, notre basket coûte entre 5 et 7 fois plus cher selon les modèles à produire que si on la produisait comme toutes les grandes marques, en Asie, au Vietnam, en Indonésie, avec des matériaux tout à fait normaux, voire très polluants. La chaîne de production de Veja, la chaîne de valeur est beaucoup plus coûteuse, mais on la pense plus vertueuse.
D'accord. Et comment le consommateur, il achète finalement ? Parce que finalement, ça coûte plus cher.
Ah non, ça coûte pas plus cher. Elle coûte plus cher à fabriquer, mais en magasin, elle est au même prix.
D'accord, vous réduisez vos profits pour que ce soit... Non,
non, c'est à peu près le même taux de profit que, ou le taux de marge, si vous voulez.
Sauf qu'il n'y a pas la partie publicité.
Communication. On ne paye pas Ronaldo ni Mbappé pour porter
nos baskets.
Et pourtant,
vous avez des stars qui les portent, vos baskets.
Il y a pas mal de stars qui les achètent.
Oui. Justement, on s'intéresse au prix. Elisabeth, ça donne quoi si on regarde de près le prix d'une basket?
Par exemple, même si les grandes marques essayent de soigner leur image, par exemple, pour une basket qui coûte 100 euros, eh bien, il y a des études qui ont été faites. Il y en a à peine 12 euros qui reviennent à l'usine. Le salaire des ouvriers, ça correspond à 0,4% du prix de la basket. 33 euros pour la marque. 50 euros pour le circuit de distribution et 5 euros pour les transports et les taxes. Donc on s'aperçoit que quand on retire, comme vous, la part sur le marketing, sur la publicité, sur les égéries, finalement on se retrouve avec un prix de basket le même, mais de meilleure qualité.
Et votre marché principal, il est en France, 3 millions, c'est ça, de paires vendues ?
Non, en fait le marché principal, c'est aux États-Unis depuis 2017. Ensuite, c'est l'Angleterre.
Et donc les choses se sont inversées.
Ouais, en fait, les États-Unis ont commencé en 2014 et c'est vrai que Veja fonctionne très bien là-bas. Le bouche à oreille s'effectue très bien à travers les réseaux sociaux, les blogs, Internet, quoi, en gros. Et du coup, Veja grandit un peu partout. Aujourd'hui, on est 110. On a commencé avec 10 000 euros. Donc au début, c'était vraiment une aventure. Hein.
Oui,
vraiment...
sans trouver d'investisseur, sans jamais demander.
Non, on n'a jamais voulu que des investisseurs rentrent dans l'entreprise. C'est une SARL et on est très bien comme ça. On a des projets, mais on ne parle jamais de ce qu'on va faire. On parle plutôt de ce qu'on a fait. C'est une discipline qu'on aime bien. Mais non, les investisseurs, on ne voulait pas rentrer dans cette Startup Nation qui, je pense... on en voit déjà les limites à peine au bout de... Ça fait une quinzaine d'années que les startups sont là et je trouve que la folie des investisseurs, on oublie beaucoup la réalité aussi. Quand on passe son temps, sa vie à chercher des investisseurs, ben on oublie de créer son business. Et nous, on a pris le chemin inverse.
On reste ensemble, on va continuer à parler basket française aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h21.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si vos vieilles baskets pouvaient donner vie à une nouvelle paire, c'est aussi ce que fait Insoft du côté de Romans. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités aujourd'hui. Nous découvrons les baskets françaises, elles sont connectées, équitables, made in France, il y en a pour tous les goûts. Et vous êtes nombreux à nous dire comment vous aimez vos baskets. Continuez, on lit vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe. Europe 1.
Et c'est vrai qu'on a tous hein, des vieilles paires de baskets qui dorment au fond de l'armoire, mais ces chaussures, elles peuvent avoir une nouvelle vie. Bonjour Patrick Benguené.
Bonjour.
Merci d'être avec Bonjour nous en ligne. Alors, vous êtes oui. parmi les victimes, j'ai envie de dire, de cette panne d'électricité, hein, puisque vous deviez être avec nous dans les studios et vous êtes coincé dans le TGV qui vous amenait jusqu'à nous. Ça n'est pas grave, vous êtes avec nous au téléphone et c'est bien l'essentiel. Vous dirigez Insoft, c'est vous qui avez lancé la basket Hector, Hector sans le H. Hector, c'est quoi? C'est une basket tricotée, recyclable? Racontez-moi.
Ben, c'est un peu les deux en fait. Hector, c'est la première basket fabriquée en France en économie circulaire, c'est-à-dire que à la fois elle est fabriquée à partir de matières issues du recyclage, notamment des bouteilles plastiques, et à la fois elle est recyclable en fin de vie. Donc, c'était vraiment le pari, et moi je crois vraiment qu'on peut associer la mode et l'économie circulaire sur des produits pour tous les jours en fait, qui ne demandent pas de propriétés techniques majeures, et c'est ce qu'on essaie de faire.
Donc, dans une basket Hector, il y a combien de bouteilles plastiques, si j'ose dire?
Bien, on a calculé, il faut 6 bouteilles plastiques pour faire une paire d'Hector. Donc, voilà, c'est le poids de matière, je dirais, nécessaire pour ensuite faire un fil qui sera tricoté d'une manière très dense pour assurer le maintien du pied et la résistance de la chaussure.
Oui, c'est un savoir-faire très particulier, hein, le tricotage. On parlait tout à l'heure de Nike ou d'Adidas qui utilisent aussi aujourd'hui ce type de savoir-faire. Où est-ce que vous êtes allé le chercher?
Bien, en effet, ces grandes marques-là, moi j'ai travaillé 30 ans dans l'industrie de la chaussure et je voyais pointer dans des pays de fabrication de ces grandes marques des technologies. Et je trouvais dommage qu'on ne puisse pas intégrer ces technologies pour fabriquer en France des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. Donc c'est en voyant, je dirais, ces technologies émerger que je suis allé, au moment où j'ai créé la société, donc Insoft, je suis allé demander à un tricoteur de la région de Saint-Étienne de tricoter ce qu'est devenu Hector aujourd'hui, donc ce qui ressemble à une chaussure.
Oui, c'était en 2011, c'est ça, avec toujours cette ambition de produire en France.
Exactement. Donc, la société, je l'ai créée en 2011. Nous, on fait à la fois du développement pour différentes marques et de la production. Aujourd'hui, c'est un atelier qui est basé à Romans-sur-Isère et c'est une dizaine de personnes. Et on essaye de mettre en œuvre, je dirais, le produit Hector. Alors, le produit Hector, il est un peu plus récent parce qu'il a fallu étudier, concevoir le produit, trouver les partenaires. Mais aujourd'hui, c'est un produit qui est diffusé dans plus de 50 magasins en France et beaucoup en fait, je pense qu'on a réussi.
Ouais, ça coupe évidemment parce que vous êtes en train d'arriver Gare de Lyon. Je précise simplement hein, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent aussi sur Europe1.fr que vous pouvez la voir cette paire de baskets Hector justement sur notre site en direct. Elle est là, il y a plusieurs modèles et on voit aussi tout le circuit entre la bouteille et la chaussure. Je me tourne vers vous, Sébastien, je crois que vous aussi vous êtes en train de travailler sur la chaussure via la bouteille plastique. Hein. C'est quelque chose qui était en projet depuis 2014
Non, on l'a lancé en 2014.
Vous l'avez lancé en 2014
Mais en fait, tout l'industrie est très intéressée par l'industrie de la chaussure et des baskets est très intéressée par le recyclage et je pense que il n'y a pas que cette industrie là d'ailleurs et on l'a lancé en 2014 à base de bouteilles plastiques recyclées et je pense que c'est le futur et ce que disait Patrick sur le recyclage des baskets est super intéressant aussi. Moi j'adore son projet, c'est vraiment la relocalisation. Les outils de tricotage qui permettent la relocalisation. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Et il y a plein de marques qui commencent à s'y mettre. Et je pense que c'est un vrai mouvement et un mouvement assez moderne.
Patrick Benguené est de retour avec nous. Une question peut-être pour lui, Riyad.
Moi je tenais surtout à le féliciter, à vous féliciter tous, parce que je m'aperçois que dans l'entreprise, il y a le retour de l'éthique et on a remis l'humain en premier. Donc je voulais surtout vous féliciter, vous dire que j'admirais votre démarche qui est vraiment engagée. Quoi.
Patrick Benguené, vous avez un partenaire, oui. Je crois, du côté de Saint-Étienne qui refait les fils également. Hein. C'est important de les préciser parce que tout est made in France. Voilà, on ne peut qu'applaudir.
Merci. Oui, en effet, on a un partenaire à la fois pour le tricotage et puis un autre pour recycler les chaussures et refaire du granulé qui va être mélangé avec celui des bouteilles plastiques pour refaire un fil à nouveau tricotables et refaire de nouvelles chaussures. Ouais. C'est vraiment l'objectif d'être en économie circulaire.
Ouais, et l'amour de la chaussure, vous l'avez en héritage, si j'ose dire, puisque votre père était bottier, c'est ça ?
C'est bien ça, oui, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de booster notre projet et de continuer à fabriquer beaucoup d'hectares, je dirais, pour... Il faut savoir qu'en France, c'est 350 millions de paires de chaussures qui sont consommées par an et pour lesquelles il n'y a pas de solution de recyclage aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un point important, je dirais, à prendre en compte au niveau des fabrications de chaussures.
Merci d'avoir été en ligne avec nous. Je ne sais pas si la ligne va tenir. On se retrouve peut-être d'ici quelques instants pour parler basket française sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend. Vous êtes nombreux déjà à réagir. 39-21. Ou alors Twitter avec le hashtag Europe 1. C'est la France qui bouge, c'est votre émission.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui, nous découvrons les baskets made in France. Elles sont parfois connectées, équitables, elles sont bleu, blanc, rouge en tout cas et elles vous font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1 et le standard, le 39-21, 50 centimes la minute, Raphaël.
Oui, nous sommes toujours avec Riyad Boulanoir qui est notre coach. Aujourd'hui, Elisabeth Assayag est à mes côtés et nos invités, Sébastien Kopp qui est l'un des deux fondateurs de la marque Veja, mais également Patrick Minguenet qui est en ligne et qui dirige Insoft. J'ai perdu évidemment mes feuilles parce que j'avais des petits soucis avec cette liaison téléphonique. Franck Chérel qui est président de Parade et d'Yvonne, je voulais pas dire de bêtises. Parade, c'est la filiale des rames. Yvonne, c'est la basket connectée. Question peut-être pour vous, Sébastien. On voyait que il y avait une possibilité de produire de la basket ici en France. Vous avez fait un choix différent. Est-ce que si demain, il y a des possibilités de produire en France, vous allez essayer de le faire ?
Ah non, on est super intéressés par tous les beaux projets. On a déjà cherché beaucoup. Enfin, on continue toujours à chercher d'autres moyens de produire. C'est vrai que quand on commence en 2005, ce n'est pas tout à fait le même monde. Et c'est vrai que nous, on a un esprit très globalisé dans le sens où ce qui nous intéresse, c'est trouver le pays des matières premières. Et pour ça, le Brésil est parfait parce qu'il y a du coton bio, parce qu'il y a du caoutchouc sauvage, parce qu'il y a une industrie textile et chaussures très forte, parce qu'ils sont très protectionnistes et qu'ils ont gardé un tissu industriel très fort. Il y a des usines qui traitent bien leurs travailleurs, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le sud-est asiatique en termes de syndicalisation, en termes d'horaire, en termes de parité de pouvoir d'achat. Et le Brésil est assez européen dans sa partie sud, est très développé. C'est un pays très développé pour ces deux régions de São Paulo et Rio Grande do Sul. Mais alors produire en France, nous on adorerait. Patrick l'a montré d'une certaine façon. Il y en a quelques-uns qui le font. C'est difficile parce que souvent c'est très coûteux. Souvent l'outil industriel a disparu. Il y a plein de soucis, plein de problèmes, etc. Je pense que le futur est là, à une relocalisation des activités industrielles. En fait, le tricotage 3D, ce que utilise Patrick pour faire ses baskets, est l'une des opérations futures parce que ça nécessite beaucoup moins de main-d'œuvre. C'est des machines à tricoter qui font une sorte de chaussette que vous mettez sur une semelle. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est futuriste et ça relocalisera la production.
Je vois Franck Chérel à côté de vous dire un coup oui de la tête, un coup non de la tête. Travailler en France, il n'y a pas de question de relocalisation pour vous. Vous produisez tout, 100% de vos chaussures ici ?
Alors, nous avons deux usines encore dans les Pays de la Loire. Nous fabriquons environ 1 million de paires de chaussures, toujours en France. C'est très important parce qu'on commence à voir justement des sociétés, un petit peu comme la vôtre, qui viennent et qui cherchent des sites industriels pour pouvoir produire. Et on accueille régulièrement des projets et des réalisations pour tout type de marques. Et vous êtes vraiment le bienvenu. On vous ouvrira l'usine avec grand plaisir. Et on a 5 magnifiques projets qui vont sortir prochainement pour des marques françaises, nouvelles ou existantes, pour faire du Made in France. Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui cherchent des produits de qualité français.
Elisabeth, le marché de la basket, il faut dire que ça fonctionne quand même très très bien. On a donné quelques chiffres, mais vous en avez davantage.
Oui, alors 5,3% de croissance par an depuis 5 ans. C'est un segment qui a gagné 7%. points de part de marché en France et ils représentent 63% des ventes du marché de la mode enfant et 53% des ventes du marché masculin. Le marché féminin, lui, fait un petit peu de résistance, mais pas tant que ça, parce que même si les femmes aiment s'habiller, enfin se chausser avec des boots ou des escarpins, les ventes dans ce secteur ont baissé, alors que les modèles de sport augmentent régulièrement. Donc c'est important de le souligner.
Anissa, je crois qu'on a beaucoup de messages pour oui. ces baskets françaises.
Oui, ça réagit beaucoup sur Twitter avec le hashtag Europe 1. En effet, Soldat Guerrier nous dit « Moi, mes baskets, je les choisis surtout pour leur prix, leur design et leur confort. C'est le plus important pour une basket. » Hubert nous dit « Encore un truc qui collecte vos données. » Il parle des baskets connectées. Ah. « Des données pour transmettre à un tiers. Il s'en servira à mal escient. Big Brother is watching you. »
Alors attendez, on va laisser Franck Cherel répondre. Alors, Big Brother nous suit dans vos baskets ou pas ?
Big Brother ne nous suit pas du tout. Nous ne sommes pas les gros monstres américains que tout le monde imagine. Les données restent stockées dans la chaussure et sont écrasées au fur et à mesure. On n'a que 30 secondes de mémoire, tout simplement. Et on ne capte jamais la position de la personne. On active le GPS qu'en cas de chute. Et en fait, c'est nécessaire pour avoir 3 mois d'autonomie. Donc non, ce n'est pas le cas.
Bon, voilà pour la réponse. Vous avez d'autres messages,
oui,
Anissa ?
Sophie nous dit « J'ai tout juste reçu ma toute première paire de Veja. Je suis très heureuse de vous rejoindre. Elles sont magnifiques. » Et puis Hélène, elle a une question à propos de la marque Veja. Est-ce que le fait que les baskets Veja soient plus vertueuses, cela les rend-il plus solides ?
Ah, Sébastien ?
J'en sais rien, parce que déjà, on ne se compare pas avec les autres. En fait, moi, j'ai un seul principe, c'est que tout ce qui est fait avec amour dure plus longtemps. Après, on a eu des baskets qui étaient fragiles. On en a qui sont plus solides que d'autres. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Si vous faites du skateboard à haut niveau avec, elles ne dureront pas très longtemps. Mais oui, la qualité, on a une équipe de 5 personnes qui est dans l'usine de production tous les jours. Je pense que les baskets Veja sont de qualité. Après, il peut toujours vous arriver des soucis et ça, c'est notre SAV qui gère.
Je voudrais qu'on donne la parole à Patrick Manguené qui, ça y est, je crois qu'il est arrêté enfin. Il a terminé son périple. Patrick Manguené, votre marque, elle a vendu combien de paires d'ores et déjà ?
Alors nous, on est vraiment tout petit. Hector, on commercialise depuis l'été 2017. Et aujourd'hui, on a vendu près de 8000 paires. Donc, ça reste modeste. On doit vendre 5000 paires cet été.
Et, avec un objectif que tout reste dans les 100 euros. Hein.
Exactement. Nous, notre prix public, c'est 100 euros sur la version été, en fait. Et on essaye de trouver des solutions pour rester à un niveau de marge acceptable. Et c'est vraiment un challenge de produire en France aujourd'hui. Comme les autres intervenants pouvaient le dire. Mais voilà, moi, je ne vois pas... j'ai du mal à imaginer un pays où on ne puisse pas être capable de fabriquer ses chaussures. Et l'idée, c'est d'essayer d'apporter, en effet, des solutions modernes pour faire évoluer les technologies. Et moi, je dis toujours, on ne fabrique pas aujourd'hui la chaussure comme on l'a fabriquée il y a 50 ans. Et dans 50 ans, on la fabriquera encore différemment. Et c'est de trouver des solutions innovantes pour, justement... faire des chaussures plus respectueuses de l'environnement.
Oui, et dites-moi, Elisabeth, on en a trouvé d'autres, hein, des baskets recyclées.
Il y en a plein d'autres, tout à fait. Vous avez un mouvement. Il y a un mouvement qui est en train d'émerger. Vous avez UBAC, UBAC, ce sont des baskets en laine recyclée. Elles sont fabriquées en France à très faible impact environnemental. Alors eux, ils ont mis en place une formule de fabrication qui permet d'éviter une surproduction de matières, notamment synthétiques, qui sont des matières coûteuses en eau et en énergie. Une laine qui n'est pas reteinte et qui permet une nouvelle fois une économie d'eau, d'énergie et une diminution des risques de pollution. Vous avez aussi Ngo Shoes, ce sont des baskets en cuir avec un tannage végétal. Vous avez FGTL, des baskets dites vegan. C'est une entreprise française qui les fabrique. Ou encore Saola, qui est située à Annecy. Des baskets à partir de plastique recyclé.
Et oui, il y a un vrai mouvement qui se dessine. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur Europe 1.
Merci.
Il est 13h39.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
C'est une entreprise familiale, un des grands noms du parfum en France, Fragonard, et l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe avec Raphaël Duchemin et ses invités. Il est temps, Raphaël, maintenant de découvrir l'entreprise qui va bien, merci. Elle fait partie de notre patrimoine et elle nous fait rêver grâce à nos nez.
Oui, cette entreprise, elle nous transporte du côté de Grasse, où se trouve toujours son siège d'ailleurs. Bonjour Agnès Webster.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette, j'ai envie de dire, cette institution avec votre sœur, créée par votre arrière-grand-père, c'est ça, 1926 ?
Absolument. Nous sommes la quatrième génération.
C'est pour des questions de santé, je crois, qu'il arrive du côté de la Riviera, parce qu'il est originaire de Lyon et il cherche tout simplement un meilleur air, un air pur.
Ben, Grasse était réputée au début du XXe siècle pour son bon air et pour soigner les asthmatiques. Après, mon arrière-grand-père s'est installé là et a tout de suite voulu s'intéresser aux parfums.
Oui, ce n'était pas du tout son travail,
non,
il était notaire.
Non, pas du tout, absolument. Et il a été président du syndicat des parfumeurs en 1921. Et il a acheté une entreprise grassoise qu'il a ouverte au public en 1926.
Et alors, il paraît qu'il n'avait pas vraiment le sens des affaires.
Il n'est pas resté longtemps aux affaires, puisque 3 ans plus tard, il avait laissé la place à son fils et à son beau-fils, qui ont, eux, géré l'entreprise pendant des années et très bien.
Oui, et c'est là que ça décolle véritablement. Dites-moi, quelles sont les toutes premières fragrances que la maison invente ?
Alors, la maison s'était basée sur Fragonard le peintre et avait eu comme idée de prendre les noms des tableaux pour appeler ses parfums. Donc les premiers parfums, Billet doux, Moment volé, Île d'amour, proviennent des titres des tableaux de Fragonard et sont des parfums éminemment fleuris, puisque Grasse était réputée, elle est toujours, pour les fleurs qui entouraient la ville.
Belle de nuit, je crois que c'est votre meilleure vente. C'est ça votre best-of aujourd'hui?
Oui,
encore
Belle de nuit est un peu plus tardif parce qu'il est juste après la guerre, enfin après la Deuxième Guerre mondiale. Mais notre best-seller absolu, c'est La fleur d'oranger, qui est l'image de marque de la maison.
Votre père, quand il arrive, prend la suite logiquement. Je crois que c'est lui qui va ouvrir le tout premier musée du parfum, c'est ça ?
Oui, mon père était collectionneur d'objets de parfumerie et a eu l'idée d'ouvrir un musée au-dessus de l'usine en 1978, puis un deuxième musée à Paris en 1984. Mes sœurs et moi avons perpétué ce principe, puisque les choses importantes chez Fragonard, c'est justement les visites gratuites et guidées de nos établissements, que ce soit des usines ou des musées. Le principe est que chez Fragonard, on achète peut-être du parfum, mais surtout, on trouve l'occasion de se plonger, de partager notre savoir-faire, partager notre histoire de parfumeur.
Je disais tout à l'heure, 3000 ans d'histoire de parfum.
Oui, nos collections sont assez vastes. Nous sommes l'un des principaux collectionneurs privés d'objets de parfumerie et nos visites, que ce soit à Paris où nous avons 3 musées ou sur la Côte d'Azur où nous avons aussi 3 musées, sont libres.
Il y a peu de représentants comme vous aujourd'hui. Il reste 3 grands finalement sur la Riviera. Comment ça se fait ? Parce qu'on est, nous en France, finalement liés à l'histoire du parfum.
On est lié au parfum, mais à son histoire, oui. Mais pour la montrer, il faut avoir la possibilité de la montrer. Et nous sommes très bien placés, puisque Grasse est la capitale, était la capitale mondiale des parfums. Nous y avons notre maison mère, ces collections que nous avons qui permettent de montrer cette histoire du parfum. Les gens ont l'habitude d'acheter un souvenir dans une bouteille, une odeur, mais pas l'histoire de comment elle a été fabriquée. Nous sommes l'un des rares qui permettent de voir ça.
Et vous avez encore des usines, hein ? 3 usines, c'est ça ?
Oui.
48
deux,
salariés ?
2 usines sur la Côte d'Azur, autour de Grasse, et une à Monaco, à côté de Monaco, où nous fabriquons nos cosmétiques et nos parfums.
Que dit notre coach, Riad Boulanoir ?
Ben moi, je me demande depuis 1926 comment a évolué le marché du parfum. C'est toujours les mêmes consommateurs, les mêmes consommatrices ou
Non, je pense que ça s'est énormément diversifié. Aujourd'hui, le parfum, c'est presque impressionnant. Le nombre de lancements par an, le volume que représente en milliards d'euros le marché du parfum, c'est absolument impressionnant.
Donc, Une clientèle plus jeune ?
Oui, toutes les clientèles. Je pense surtout que quand mon arrière-grand-père a commencé en 26, les gens se parfumaient très peu, c'était réservé à une élite. Et aujourd'hui, ça s'est évidemment beaucoup démocratisé. Et puis surtout, les gens, moi encore la génération de ma mère, on portait un parfum pour toute sa vie. Ou en tout cas, pour toute l'année. On n'en changeait pas. Aujourd'hui, tout le monde a plusieurs parfums dans son placard. Les parfums par saison, par époque, juste par goût.
Et du coup, vous êtes obligé de faire des collections régulièrement ?
Alors nous sommes très libres, parce que comme nous sommes fabricants et distributeurs, nous faisons ce que nous voulons. Les marques de parfumerie, oui, font des collections régulières, etc. Nous, nous sommes très libres. Nous les faisons un peu quand nous en avons envie.
Et cette année, c'est la lavande, hein,
voilà,
c'est ça ?
Nous donnons une fleur par an comme thème de notre communication. Et la lavande, c'est la 11e fleur que nous mettons à l'honneur.
Une question sur l'international, ouais, c'est ça, Ariel ?
L'international, combien de pays vous distribuez ?
Alors, nous distribuons assez peu, parce qu'en fait, nous avons comme principe que Fragonard, si vous le voulez, vous venez le chercher. Donc, vous venez dans nos établissements, sur notre site internet. Sinon, nous avons une distribution, mais extrêmement limitée, parce que nous ne la recherchons pas. Je trouve qu'aujourd'hui, un des luxes de notre époque, c'est justement de ne pas tout trouver partout, de le mériter.
Elisabeth ?
Alors, cette année, c'est la lavande, mais quel est le parfum emblématique de la maison Fragonard ?
C'est la fleur d'oranger, définitivement.
Et je précise que vous êtes aussi engagée, c'est important de le signaler, avec une ONG, Élise Kerr, c'est ça, c'était important pour vous justement ?
Très important. Élise Bogossian est une femme extraordinaire qui apporte des soins médicaux et psychologiques aux réfugiés de Syrie et d'Irak. Et pour nous, c'était essentiel de faire un coffret solidaire avec elle, dont l'intégralité du chiffre d'affaires lui est reversée. C'est un porte-savon et un savon qui coûte 25 euros, donc nous en avons déjà vendu énormément. Et c'est à la suite d'une opération que nous faisons déjà avec un orphelinat indien pour lequel nous éditons depuis une dizaine d'années un sac solidaire dont également nous versons l'intégralité du chiffre d'affaires, que j'ai eu envie de m'engager plus. Voilà.
C'est Fragonard, entreprise engagée, et c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Merci à vous.
Il est 13h50.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Il vous reste peut-être des tickets resto périmés. Ne les jetez pas, la solution c'est l'opération Je Dèche, Je Donne pour faire en sorte qu'ils servent à ceux qui en ont besoin. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez de découvrir la solution du jour. Et aujourd'hui, elle va concerner beaucoup d'employés qui nous écoutent.
Oui, regardez bien au fond de votre sac. Est-ce qu'il vous reste des tickets resto de 2018? Très bien, parce que depuis le 1er février, eh bien, ces titres qui ne sont plus acceptés dans les restaurants et dans les commerces seront bien utiles. Elisabeth, c'est le sens de l'opération Je Dèche, Je Donne.
Oui, les titres restaurants de 2018 ne sont pas périmés pour tout le monde. En effet, depuis le 1er février, ces titres peuvent être donnés à Action contre la faim en partenariat avec le groupe Up. C'est le groupe qui émet des chèques déjeuner. Ça fait 10 ans, hein, on ne sait pas forcément, que cette opération a lieu. Et ce sont près de 4 millions d'euros qui ont été collectés depuis son lancement. Ça s'appelle « Je Dèche, Je Donne ». Et ça donne donc la possibilité à chaque utilisateur de titres restaurant de faire don d'un ou plusieurs titres au profit d'Action contre la faim. C'est une opération qui dure jusqu'au 31 mars.
Oui, donc il vous reste du temps, allez-y. Bonjour Thomas Delpech.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable mécénat de Up. Il me reste par exemple des titres restaurant de l'année dernière. Je les donne comment et à qui ?
Alors c'est tout à fait tout simple. Vous avez jusqu'au 31 mars pour pouvoir remettre vos chèques déjeuner, titres restaurant périmés. Il vous suffit de mentionner Action contre la faim sur votre chèque déjeuner, d'apposer une mention, de le mettre dans une enveloppe T à l'adresse qui est indiquée sur le site du dispositif jedèchejedonne.org et de l'envoyer en enveloppe T ou non affranchie. Et le don parviendra directement à Action contre la faim et permettra d'aider à toutes ces personnes qui aujourd'hui ont un problème qui ont un problème de faim dans le monde.
Et alors vous pensez à qui c'est pas cantonné à la France, c'est-à-dire que les dons pour Action contre la faim dépassent évidemment nos frontières.
Tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance, c'est qu'il y a 4 millions d'utilisateurs de titres restaurants en France. Nous avons 1,5 million d'utilisateurs. Ces gens donc effectuent des dons, 600 000 euros l'année dernière. Et ces fonds, donc cette grande collecte nationale, est donc reversée intégralement à 100% à Action contre la faim pour des projets dans le monde. 20% sont des projets d'urgence. Par exemple, l'année dernière, on a pu aider les problématiques en République centrafricaine ou encore au Bangladesh ou au Yémen. 80% des fonds restants, eux, vont dans les actions menées par Action contre la faim tout au long de l'année pour essayer de résoudre ce problème qui est la faim dans le monde.
Et vous êtes en partenariat seulement avec Action contre la faim ? Vous ne vous êtes pas dit que, vu que ça fait 10 ans que vous avez lancé ça et que ça marche très très bien, vous vous êtes pas dit que vous alliez diversifier les associations ?
Alors aujourd'hui, nous avons ce dispositif assez fort dont je rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, nous étions à l'origine. Nous avons essayé de pousser un peu les pouvoirs publics pour essayer de rendre ce titre restaurant comme un don, ce qui n'était pas le cas. Donc il a fallu aller de l'avant. Action contre la faim est un partenaire fort à nos côtés, mais nous avons d'autres dispositifs d'engagement au service de la société civile qui englobent cette problématique de résoudre les problèmes d'alimentation dans le monde, en France et partout ailleurs. Donc en fait, Action contre la faim est un partenaire d'un dispositif, mais nous en avons plein d'autres en matière de mécénat ou d'autres types.
Que dit notre coach, Riyad Boulanoir ?
Là, ce n'est pas une entreprise, mais je me demande, est-ce que les Français sont généreux ?
Alors, les Français sont généreux. Les dernières études sur le crowdfunding et sur le don de particulier, il y a plein de diversifications. Le Français, je crois, est de plus en plus généreux, mais il a besoin de trouver du sens dans son don. Donc, que ce soit un micro-don qu'on peut faire en caisse ou sur son salaire aujourd'hui, ou un don de titre restaurant ou un don en argent. Aujourd'hui, oui, je pense que le Français est un acteur généreux, mais il a besoin qu'on l'investisse, qu'on l'engage dans sa démarche et qu'il en mesure les effets aussi, je pense. Voilà.
Vous avez d'autres possibilités, d'autres choses que vous pouvez comme ça récupérer, auxquelles on ne penserait pas et qui éventuellement peuvent servir à d'autres ? Est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Alors aujourd'hui, nous, un groupe comme le nôtre, organise plein de missions ou d'activations avec nos parties prenantes. Nous, on est à l'origine, on est un groupe coopératif créé il y a plus d'une cinquantaine d'années. L'engagement sociétal est au cœur de notre action, dans notre ADN. Voilà, donc on veut faire avec nos parties prenantes. Donc aujourd'hui, la collecte de dons de matériel, les entreprises peuvent se mettre à disposition le matériel stocké dans les sous-sols ou dans les bureaux non occupés. On peut animer, je le disais tout à l'heure, du micro-don sur salaire. On peut animer des collectes de produits thématiques. Nous, dans notre entreprise, par exemple, on collecte des jouets pour Noël, on collecte des produits d'hygiène en ce moment, parce que l'hygiène et la santé est un vrai problème, un vrai fléau. Nous collectons aussi des fournitures scolaires, des produits alimentaires. Voilà, on peut imaginer. Le mécénat prend toutes ses formes, l'argent, la matière première, et puis peut être également du temps. Ça, c'est la nouvelle forme de don et de générosité qu'on voit arriver dans notre société.
Et il vous reste donc jusqu'à la fin du mois de mars pour donner ces titres restaurants périmés pour vous, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. L'opération s'appelle Je Déj, Je Donne. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Riyad qui était notre coach aujourd'hui.
Merci Raphaël, merci.
Merci. On se retrouve demain, Elisabeth,
demain,
et on va rester presque dans la même thématique puisque nous parlerons cagnotte et financement participatif à la française.